Mais voilà, je fais encore une petite pause, à la fois pour l'une ou l'autre question et pour voilà, prendre un peu de force. Je vous laisse parler.
Oui, c'était juste une question. Comment, pour essayer de comprendre comment les naturalistes pouvaient mettre en lumière justement le fait que l'animal avait un rituel. Parfois, quand on voit notamment des sanctuaires, des sanctuaires animaux, je pense à des sanctuaires marins, où les animaux vont se reproduire ou vont mourir. Et comment est-ce qu'on peut justement enlever l'idée de toute absence de raison qui serait proche de celle de l'humanité, que celui d'un rituel funéraire qui pourrait être, par exemple, l'extrême-onction ou autre.
Qui pourrait être ?
Qui pourrait être l'extrême-onction d'une certaine manière. Il y a une préparation au dernier voyage de l'animal qui se rend dans...
Mais est-ce que c'est vraiment de ça ? Ça, j'aimerais bien savoir. J'avoue mon ignorance là-dessus. Est-ce que c'est vérifié, ça ? C'est sorte de rite funéraire de, je voudrais savoir. Voilà.
Moi, ce qui me gêne après dans ce mode de pensée, c'est qu'on en reste toujours, c'est ce que j'ai essayé de montrer en parlant de la phrase d'Aristote hier, dans une idée qu'on pourrait... une manière de penser une supériorité humaine, mais par exclusion, par séparation, par domination, par écrasement de l'humanité. Oui. Moi, quand on me dit les singes ont un commencement technique, ou une technique, je suis ravi de pousser à sa perfection ce qui est à l'état embryonnaire chez le singe.
Oui, oui.
Quand on me dit que l'oiseau chante et n'est pas simplement là en train de marquer son territoire ou de faire sa paria, je ne sais pas, je suis ravi d'assumer en moi une dimension qui est celle de l'oiseau quand je chante. Ce que je veux dire, c'est pourquoi penser toujours cette supériorité, non pas comme enveloppement et comme assomption, mais toujours comme exception qui ne confirmerait même pas une règle, et comme exclusion.
Oui.
Moi, c'est ça qui me gêne. Moi, ce n'est aucun problème de dire qu'il y a du singe en moi, qu'il y a de l'oiseau en moi. Ça ne me pose aucun problème. Mais ça suppose que j'ai une autre vision, que j'ai précisément une vision portemanienne.
Oui, oui. Voilà. Mais là effectivement, en t'écoutant hier, donc je devrais relire mes notes, etc. Donc, en effet, tu vas dans une direction à partir d'Aristote qui est assez différente de celle que j'essaye de restituer ici. C'est vrai, je constate moi-même. Et je ne suis pas tellement sûr, d'ailleurs, que ce soit la bonne. Mais enfin, voilà, en tout cas, il y a autre chose. Il y a quand même une tendance, comme tu le dis, à maintenir une supériorité. Mais tu irais jusqu'à... est-ce que dans ce que tu proposes, donc il n'y aurait pas une sorte de saut, enfin disons quand même. Est-ce qu'il n'y a pas...
C'est-à-dire cette phrase que j'ai essayé de mentionner où il est dit l'homme est le plus, mais selon la nature, c'est-à-dire le plus, mais en assumant ce qu'il y a aussi de plus bas. Voilà, alors, ce qui me pousse à penser comme ça, c'est peut-être aussi la structure de pensée qui implique j'ai employé le mot assomption, on sait très bien que c'est un concept qui doit avoir aussi une connotation, voire même une dénotation religieuse. D'une certaine religion où l'élévation de l'esprit se fait toujours à travers l'incarnation, à travers une assomption de la chair et pas par un éloignement de la chair. Donc c'est ce même mouvement qui est celui d'une spiritualité de l'incarnation que je retrouverai au plan naturel en disant l'homme, la grandeur de l'homme est une grandeur, je dirais, d'hospitalité ou de microcosme qui assume en lui toutes les formes qui sont déjà là dans l'univers et qui les porte à un point, je dirais, d'intensité, d'incandescence, de conscience aussi, de telle sorte qu'il peut être aussi, on pourrait dire, le grand liturge
de
la création. Moi, c'est ça que
je... Moi, je pense, mais là, je n'ai pas aucune difficulté. Je voudrais même faire une citation en demandant, enfin, si tu es... Non, Enfin, j'essaie de comprendre. Hein. Donc, il y a ce que tu as dit. Donc, avoir une part, enfin, ou prolonger la technique, les techniques des grands singes, mettons, prolonger le chant des oiseaux. Bon, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait que ce que nous appelons la même façon technique est tout de même d'un autre ordre, mais je ne peux pas le justifier. Quand même, langage, là, sur la question du langage, est-ce que tu dirais que le langage humain est le prolongement, l'enrichissement, que sais-je, des formes de communication? C'est ça, là, c'est quand même ça. Mais alors, ce que tu dis, la perspective d'un homme qui... je dirais à qui Dieu a confié la création, là, j'ai pas de difficulté, mais c'est l'autre.
On peut penser la distinction, une distinction profonde, une différence vraiment de nature, mais qui est englobante, c'est ça ce que je veux dire, et qui n'est pas justement en train de dire, ben voilà,
oui.
qu'est-ce que permet le langage? Bien sûr que les... Par exemple, Benveniste, quand il parle des abeilles et de cette communication par signal, il montre bien qu'on est chez les animaux, chez les bêtes, dans un mode qui est signal-comportement. Il y a, oui, un signal, ça engendre un comportement. Le signal peut éventuellement être retransmis par un autre, mais ce qu'il souligne, Benveniste, c'est qu'il n'y a pas de dialogue.
Il n'y a pas de dialogue.
Le signal n'est pas un signifiant sur lequel je m'interrogerai.
Voilà.
Qu'est-ce que tu viens de me dire en fait? Mais dans quel sens prends-tu ce,
voilà,
signal? Ben, les chiens ne font pas ça. Tu vas dire, ah tiens, tu as aboyé comme ça, mais il faudrait que je resitue ça dans le contexte. Et on va faire de l'intertextualité canine dans un linguisme là.
Oui, enfin, il ne faut pas aller jusque-là. Hein,
bon. Canidisme canin.
Ah voilà. Enfin, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à
cette
subtilité.
Mais... Ça, c'est évident. Mais en même temps, d'avoir le langage me permet de parler du chien, de parler de l'abeille, et donc d'assumer leurs propres signaux dans une autre dimension. Et c'est ça ce que fait le poète, c'est même ça ce que fait Portman. C'est-à-dire que
la parole
n'est pas là pour affirmer une supériorité qui rejette le cosmos et qui écrase le cosmos, mais au contraire qui le porte, qui l'assume. Je me souviens qu'on en avait parlé un jour avec Emmanuel Méria, justement, qui est ici, que je ne vois pas.
J'espère qu'il est ici. Ah, c'est lui. Il est là. Je pense que c'est lui, enfin, moi je pense que...
On lisait justement la lettre sur l'humanisme de Heidegger, je crois, et on disait, mais l'homme parle, et ça veut dire que pour lui, en étant un être parlant, il tout devient parlant. C'est pas simplement que parce que même l'abeille va lui parler, même le fait de posséder la parole, c'est donc d'être capable aussi d'entendre la parole de toute chose. Et même si l'abeille n'est pas un sujet parlant, mais elle est parlante pour l'homme. Et donc, c'est une autre manière que j'essaye de proposer, qui me semble plus proche d'Aristote, effectivement, mais qui est une vision où on n'essaye pas de penser une exception humaine qui ne serait pas une exception qui confirme la règle. Ou une manière de penser une supériorité humaine qui serait forcément par séparation, par exclusion. Voilà. Et quand on voit, quand Aristote parle du propre de l'homme, même sur le rire, etc., il est toujours très prudent, parce qu'il dit, voilà, on peut toujours trouver sur n'importe quoi des exceptions dans le monde animal. Par exemple, moi j'ai écrit beaucoup sur la question de la copulation faciale. Qu'est-ce que ça implique? Et en disant que c'est le propre de l'homme. Alors on va toujours dire, mais non, regardez, il y a des bonobos qui font ça.
Ah, les bonobos. Ah,
ça, voilà, les fameux bonobos. Le bonobo est toujours au service de la critique de l'exception. Alors, regardez le bonobo. Je dis, oui, d'accord, mais on voit bien... Vous regardez une population de bonobos, parce que je me suis intéressé à la chose.
Ah!
Oui, bien sûr, alors j'ai vu ça dans des documentaires, on voit bien qu'il n'y va absolument pas, par rapport au visage ou à la face, cette venue de l'enfant. C'est-à-dire que le bonobo a l'air d'être assez perdu dans, dans quelque chose qui n'est même pas, qui n'est même pas ses pensées. Enfin, il est dans un acte, il y a une sorte de, d'indifférence en fait extraordinaire dans, dans l'acte sexuel du bonobo. Vraiment, c'est très impressionnant. Et donc, on voit bien que c'est pas la chose, mais oui, il y a déjà un commencement de facialité chez Bonobo, chez le manchot empereur, mais c'est, pas, c'est dans l'homme que tout cela vient s'accomplir et vient trouver sa plus forte résonance. C'est ça ce qui m'intéresse, voilà, c'est cette résonance.
Oui, mais moi, c'est très intéressant, hein, mais moi, je vois tout de même. Une divergence entre nous, enfin, ou quelque chose que tu, à mon avis, tu n'aperçois pas, ou bien c'est moi qui ne comprends pas. J'en reste tout de même au langage parce que c'est ce que je connais le mieux. Et on ne peut même pas dire que notre langage serait seulement le prolongement de. Bon, il y a aussi des tas de. Je trouve que c'est magnifique. Bon, par exemple, nous avons la capacité de mentir. Hein. Les abeilles, il n'y a pas une abeille qui va faire croire aux autres que le butin se trouve dans une. Oui, mais c'est important. C'est important. Ça fait partie de notre humanité, la possibilité de mentir.
Non, mais il y aura le mimétisme. On va faire toujours l'objection du mimétisme. Voilà qu'un phasme fait semblant d'être une branche d'arbre. Donc,
oui.
Ce que je veux dire, c'est que, mais moi, c'est pas ce type de raisonnement.
Oui, mais j'entends bien. Mais...
Ce qui englobe ne fait pas l'ombre avec ce qui englobe. Et donc, cette manière, quand je parle d'englobement, d'hospitalité, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose.
Oui, mais moi, je vois, si veux. On est d'accord, mais je vois plutôt. Alors, pour parler du langage et de la parole, effectivement, nous parlons. Du monde, nous parlons des animaux, donc nous reprenons dans notre parole, dans notre logos, l'expérience des animaux, etc. Et c'est une manière de. Une sorte d'assomption, enfin je ne sais pas si le mot est, du cosmos, etc. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Hein. Mais je vois. Mais c'est une parole de type poétique sûre, si tu veux, qui reprend l'expérience animale autre en admettant qu'elle n'est pas entièrement étrangère à nous, etc. Mais ça ne veut pas dire que notre langage soit c'est là que prolongement, c'est là que je vois une divergence entre nous. Alors j'aimerais bien te.
Et je peux prendre une autre phrase d'Aristote, oui. Qui est très célèbre. L'art imite la nature. Mais quand on est en train de penser la technique humaine en disant ça n'a rien à voir avec la nature, c'est une forme d'antinature, etc. Bon, mais une phrase comme l'art imite la nature, celui qui entend cette phrase n'est pas scandalisé du fait qu'on puisse voir dans la nature, justement, des choses qui ressemblent à de la technique. Mmh. Ça ne pose aucun problème. Et donc, il y a quand même si on va distinguer art et nature chez Aristote, en tant que l'un est un principe maintenant. Et l'autre est un principe extrinsèque d'opération, transitif. Mais il y a quand même ces questions-là ne sont pas des questions aussi fondamentales. Je crois qu'on est. Peut-être que dans ton discours, il y a encore trop quelque chose qui est marqué par la modernité.
Mm-hmm. C'est possible.
De dualisme très fort. Oui. Voilà, donc la raison comme quelque chose qui serait viendrait un peu de nulle part. Pour moi même, le fait que l'esprit ait une dimension qu'on peut appeler immatérielle, donc qui le distingue radicalement de l'animal qui n'aurait pas une âme spirituelle, mais malgré tout, l'esprit ne vient pas de nulle part, il est le couronnement de toute une ascension du monde vivant vers cela. Et donc il est aussi ce qui assure cela.
Je voulais te demander, enfin, et là j'ai une citation en latin, mais bon, ce sera un peu pédant, mais que tu connais sûrement, mais c'est un texte, moi, qui me parle toujours. Enfin, je vais même le dire en français, la traduction. « Je t'ai installé au milieu du monde afin que de là tu examines plus commodément autour de toi tout ce qui existe dans le monde. » C'est le discours sur la dignité humaine de Pic de la Mirandole. Hein. Et je trouve ça magnifique, enfin je l'avais même noté en latin, « Medium te mundi posui, Um ut circumspiceres, inde commodius quidquid est in mundo. Circumspicere. Donc l'homme serait le circonspect, voilà, à qui l'homme. Et donc c'est. Je trouve ça magnifique, enfin, cette sorte de reprise de la Genèse. Hein, et dire, voilà, et alors ça c'est pique de la Mirandole, donc il manquait quelque chose, mais il manquait pas quelque chose, une espèce, il manquait une sorte de partenaire, enfin celui qui, placé dans le monde, puisse le voir autour de lui, et là, pour moi, ça rejoint le médiocosmos, enfin être au centre, être au milieu, et pouvoir regarder ce qu'il y a autour, et le porter à la parole. Enfin, voilà.
Et le rapporter à son origine.
Oui, voilà. Donc je pense que là, ça va dans le sens de ce que tu... quand même de ce que tu avais dit hier, je pense, il me semble.
Oui, bien sûr.
Voilà. Mais alors, voilà, là j'ai un peu un problème de temps. Est-ce que je ferai encore un dernier développement que je comptais faire, enfin qui est...
Ça dépend sur quoi.
Pardon ? Mais l'idée qu'il y aurait quand même quelque chose comme une asymétrie dans le rapport entre l'homme et l'animal. Voilà. Alors c'est assez risqué. Enfin, c'est des choses que j'ai dites, enfin qui sont publiées, mais tout de même, et qui a à voir avec aussi l'anthropomorphisme. Et là, c'est à partir de réflexions d'un autre Suisse, un autre Balois. C'est Heidegger, qui a été notamment directeur du jardin, pas Heidegger justement, mais Heidegger.
Hein.
H-E-D-I-G-E-R. Il dit ceci, enfin, il, et c'est d'abord une petite blague, enfin, c'est que. Il montre face à face de l'homme et d'un lama dans un jardin zoologique. Avec le, d'un côté, on voit le bonhomme qui regarde le lama avec un écriteau lama. En dessous, la même scène est représentée du point de vue du lama. Il voit le bonhomme derrière les barreaux et un écriteau indique « mensch », un homme. Bon, alors voilà. Donc, il dit ceci illustre un problème fondamental pour ceux qui notamment gèrent des jardins zoologiques. Qu'est-ce que l'homme signifie pour l'animal? Qu'est-ce que l'animal signifie pour l'homme? Hein, ça c'est très important. J'ai écrit beaucoup de choses là-dessus. Il faut bien savoir que dans les rencontres entre les hommes et les animaux, c'est pas justement, ce n'est pas unilatéral. Hein, nous ne sommes pas ceux qui... Il n'existe pas seulement pour nous, ben nous existons pour lui. Hein, il nous voit, il nous perçoit. Hein, donc il y a réversibilité. Ce que, notamment, si j'ai bien compris, constatent les éthologues en disant, souvent dans les rapports, dans les rencontres avec les grands singes, les singes assimilent l'homme à ce dont ils ont l'habitude, au fond, qui est, par exemple, d'être le mâle alpha de la horde. Hein. Donc, nous existons aussi pour les animaux. Hein. Ça, et je pensais que, probablement dans l'expérience de la chasse, hein, le chasseur doit prendre en compte, enfin là de manière très, très pratique évidemment, le fait qu'il est visible. Il cherche à se cacher, hein, mais ça veut dire que ce n'est pas seulement les animaux qui nous apparaissent, hein, mais nous apparaissons, nous existons aussi pour eux, et pas simplement d'une manière générale, enfin, mais avec... une tendance probablement à donner un sens à ce que nous sommes, enfin à donner, par exemple, comme quelque chose d'un danger, etc. Mais, alors, nous dit aussi, je prolonge donc ce que j'ai lu chez Heidegger, donc là, on pourrait dire, cette situation de base, c'est une réversibilité, hein, donc, et c'est important. Donc, nous ne sommes pas simplement ceux qui voient les animaux, mais nous existons pour eux, en tout cas dans une rencontre en milieu naturel ou dans un jardin zoologique. Mais, suggère Heidegger, il n'y a pas simplement cette symétrie, il y a quelque chose qui vient rompre la symétrie. Et alors là, bon, ça, c'est discutable, mais enfin, je m'appuie sur lui pour le dire. Je cite à la fois ce que j'ai écrit et puis ce que dit Heidegger. Les hommes qui, pour une raison ou une autre, ont affaire aux animaux, oui, peuvent surmonter leur anthropomorphisme spontané et les connaître véritablement, comprendre leur monde propre et en tenir compte dans leur relation avec eux. Parce que, ça c'est, je me sens, c'est très important, Heidegger dit, il y a, d'une manière générale, une tendance à l'assimilation. Donc au fond, une réduction de l'autre au même. Une tendance à l'assimilation qui est à la fois propre aux hommes et aux animaux. La tendance à l'assimilation, ben, c'est l'anthropomorphisme. Donc on humanise les animaux. Mais il y a de l'autre côté quelque chose comme pas un animalisme, mais les animaux ont aussi tendance à nous assimiler à ce qui fait partie de leur monde et de leur structure. Bon. Mais, justement, ajoute Heidegger, ceux qui ont affaire aux animaux peuvent surmonter cet anthropomorphisme spontané. Peuvent, pas toujours, mais ils peuvent, donc justement, s'ils ont cette connaissance, ce savoir pré-scientifique dont je parlais autrefois, et ils peuvent donc tenir compte jusqu'à un certain point de la manière dont l'animal les voit et les perçoit. C'est ce dont, en principe, sont capables les chasseurs, les éleveurs, les vétérinaires, etc. Fait en quelque sorte banal, mais qui, selon moi, doit être pris en considération, et Heidegger dit ceci, le bon gardien et le psychologue des animaux au zoo sont conscients de leur propre tendance à l'anthropomorphisme profondément ancré et ils peuvent en éviter les effets nuisibles ou erronés. Parce qu'il montre aussi que on ne fait pas du bien toujours aux animaux en, par exemple, ne pas savoir ce qui on leur donne spontanément de la nourriture, mais peut-être qu'ils n'ont pas envie du tout. Donc on projette très souvent, par bienveillance, par bonté, toute une série de sentiments qui peuvent faire du mal aux animaux. Voilà. Et donc, il existe chez ces personnes-là une tendance à freiner, à lutter contre cet anthropomorphisme spontané. Et il dit, en revanche, chez l'animal, fait défaut un tel freinage intellectuel ou affectif de sa tendance au zoomorphisme. Et c'est là que ça me fait réfléchir, où je me demande, enfin, où je suggère, voire j'affirme, qu'il y aurait quelque chose comme une asymétrie, donc symétrie, réversibilité. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une asymétrie dans le fait que l'homme, lui, peut surmonter son anthropomorphisme et que, précisément, même si l'asymétrie et certaines formes d'analogie restent vraies, il faudrait admettre, et là je passe à une réflexion un peu plus abstraite, il faut admettre que cette symétrie, qui garde sa validité au niveau qui est le sien, est sous-tendue par une asymétrie fondamentale qui la rend possible et est la condition de possibilité. Et j'ajoute, et ça rejoint des considérations sur le logos et sur ce caractère englobant, mais un englobement qui ne serait pas seulement de l'ordre de la supériorité, mais qui reprend en lui ce qui existait. C'est notamment cette asymétrie qui fonde le lieu même d'une science des animaux, entendue comme une science compréhensive et pas simplement comme une analyse des structures physiques. Alors, là, je m'engage, je fais des prolongements dans des développements où, reprenant un petit bout de phrase de Roussel, je parle d'une préséance ontologique de l'humanité. Est-ce que l'idée de supériorité doit être maintenue? Elle est sans doute inadaptée, mais enfin, en tout cas, il y a quelque chose comme une différence de niveau, hein, et un discours qui rend possible une vision globale de la vie, de la création. Donc avec l'homme apparaîtrait la possibilité d'un discours, d'un logos sur le vivant humain et sur l'ensemble de ce qu'on peut appeler le cosmos, la création, l'évolution. Et donc je pars d'un biais en quelque sorte épistémologique, les conditions de possibilité d'un discours sur les animaux, mais qui peut reconduire à retrouver quelque chose comme la fondation d'un humanisme compris autrement. Ce que j'écrivais, les conclusions que j'écris, que j'avais rédigées, je vais vous en lire une partie. Pourquoi éprouver le besoin de remettre à l'honneur un certain humanisme ? Pourquoi se risquer à parler d'une préséance ontologique de l'humanité? En effet, n'aurions-nous pas, tout au contraire, de bonnes raisons de considérer que l'humanité, comme espèce biologique, est foncièrement brutale, cruelle, prédatrice, destructrice? Ne devrions-nous pas avoir honte d'appartenir à l'humanité, en ressentir du dégoût, une culpabilité irrémissible? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans ce que je disais au début, donc c'est ce sentiment d'une honte, d'une haine de soi, d'appartenir à l'humanité. L'expérience récente ne devrait-elle pas nous conduire à admettre que l'homme, sa présence au monde, sa relation avec les autres vivants, et même son langage, que tout cela est foncièrement mauvais, corrompu de part en part, et donc pour le bien de la biosphère, il eût mieux valu que l'homme n'existât pas? J'aime bien cette formule. Beaucoup de raisons plausibles peuvent conduire à une telle position radicale. Et pourtant, je me refuse à souscrire à un tel anti-humanisme radical. Et ça, j'écrivais déjà ça il y a une vingtaine d'années, dont on trouve des exemples dans certaines manifestations de l'écologie profonde et que j'avais vu aussi à l'œuvre dans un film déjà ancien, un film d'animaux qui s'appelait Le territoire des autres, bon, qui a été un peu oublié, mais je pourrais en parler. Et donc, il y a beaucoup de considérations, de choses qui se glissent là-dedans. Ce refus de l'anti-humanisme radical tient notamment au fait qu'il repose sur une haine de soi. Et j'ai la conviction que dans tous les domaines de l'expérience, la haine est mauvaise conseillère, que rien de durable ne peut être fondé sur la haine, y compris la haine de soi. Et donc, corrélativement, qu'un certain sentiment positif de soi, une certaine réconciliation avec soi-même est nécessaire. Et notamment, donc, ici, concernant l'humanité, l'appartenance à l'humanité, la présence même de l'être humain dans le monde. Parce que, notamment en voyant ce film dont je parlais, on se rend compte que on ne voit pas l'homme dans ce film. Il n'apparaît jamais, sauf dans une image tout à fait à la fin où il y a une image de bébés phoques qui sont tués, saignés, et on voit l'ombre d'un être humain qui se profile. Hein. Et donc le message me semble être que la présence même de l'homme dans le monde serait une catastrophe. Voilà. Mais comment? Donc, tout de même, alors, ou bien, en effet, on souscrit à ça, cette haine, et donc on souhaiterait, ne pas exister, hein, devenir inexistant, rêver d'une extinction de l'espèce humaine. Enfin, ça, ça, Bon. Ou bien tout de même assumer notre humanité, assumer notre présence au monde, avec alors une attitude qui est articulée, que je crois que Portman ou Jonas ont articulée, avec ce que j'ai esquissé en citant certains propos de Portman. Portman qui parlait à propos de l'anthropomorphisme d'un anthropomorphisme critique, enfin qui est capable de dépasser l'anthropomorphisme dans ce qui peut avoir de réducteur. Et ici, il s'agirait d'un humanisme critique, position qui s'opposerait à la fois à l'humanisme triomphaliste de l'homme comme maître et possesseur de la nature, et d'autre part à un anti-humanisme radical pour lequel l'existence même de l'être humain est une telle calamité qu'il eût mieux valu que l'homme n'existât pas. Et il me semble que ce que j'essaye d'esquisser là, ça revient à reconnaître l'existence d'un seul préalable valorisé positivement que l'on est forcément obligé de présupposer. Tout discours qui, par réaction contre un humanisme destructeur et ignorant de l'altérité des bêtes, cherche à réaffirmer leur égale dignité, hein, ce qui est la grandeur de certains de ces écrits là-dessus. Donc tout discours de ce type présuppose, qu'il le veuille ou non, une position privilégiée de l'espèce humaine. S'il ne le fait pas, il est forcément inconséquent, sape sa propre condition de possibilité. Et donc ce qui amène à une certaine réhabilitation partielle de l'humanisme. Et alors je vous lis aussi, et c'était la conclusion de ce texte, ça pourrait être la conclusion aussi de cette séance. Hein, voilà, je vous lis ce texte tel que je l'ai rédigé. C'est pourquoi je considère, pour paraphraser le texte de la Genèse, que ce fut une bonne chose qu'il y ait eu un monde, que ce fut une bonne chose qu'il y ait eu de la vie sur terre, et enfin que ce fut une bonne chose qu'il y ait eu une humanité, notamment parce que a pu émerger ainsi un discours ou un regard global sur le cosmos, la création, l'évolution. Certes, au vu des destructions effectuées par l'homme et de la menace qu'il fait porter sur la diversité des espèces, il peut sembler en effet parfois qu'il eût mieux valu que l'humanité n'existât pas. Mais critiquer ces méfaits de l'homme ne peut se faire qu'à partir d'un lieu qui est rendu possible par l'homme lui-même. Dès lors, je ne vois pas, si j'ose dire, d'issue à l'humanité. L'humanité n'a pas d'autre issue qu'elle-même, c'est-à-dire qu'un retour à soi-même et à sa propre vocation pour retrouver à la fois son éminente dignité et la responsabilité qui y est attachée. Car la noblesse de l'homme est une noblesse qui peut déroger et déchoir, oubliant ainsi que noblesse oblige. Voilà, donc un peu un message, hein, message, je pense, chrétien et philanthropique, si je puis dire. Ce serait ma conclusion, voilà, en tout cas pour cette séance, voilà ce que je voulais encore amener.